je suis fleuriste, café ou restaurant. Mes clients viennent me voir, je les connais souvent. Je les conseille, je les comprends, je suis essentiel. Vous pouvez me croire, je suis essentiel. Je suis essentiel. Je suis essentiel.
Bonjour, bienvenue dans l'émission Tous Essentiels, tous les premiers lundis du mois, de 8h à 9h.
Merci beaucoup Nadia. Aujourd'hui, on va rouler avec Nadia, parce que Max est en vadrouille, et on accueille Sébastien Groyer. Bonjour Sébastien.
Bonjour, bonjour à tous.
Bon, alors, j'ai pris quelques notes pour t'accueillir. J'avoue que c'est assez impressionnant. Donc tu es docteur en philosophie à la Sorbonne. Et on se dit, mais que vient faire la philosophie ici? Et en même temps, tu as fait une thèse sur le capitalisme et l'économie de marché. Et tu as aussi écrit un bouquin qui s'appelle « Les destins du capitalisme ». Et nous, on s'est rencontrés au Mouvement français pour le revenu de base. C'est comme ça que je t'ai recruté comme invité, puisque tu es officiellement le porteur d'une proposition qu'on va appeler économie. Donc tu vas nous en parler, mais d'abord, il faut que je te passe à la moulinette de notre devinette. Imagine, à partir de demain, tous les mois, tu reçois suffisamment pour vivre. Ça tombe sur ton compte, t'as rien à faire, et tu sais d'abord ce que c'est jusqu'au bout de ta vie. Qu'est-ce que ça change pour toi?
Alors, ça ne change pas fondamentalement les choses, parce que je vais continuer à faire mon activité professionnelle, qui est de développer des startups dans différents domaines de santé et autres technologies. Mais ça me permettrait d'en faire de façon beaucoup plus sereine, de façon beaucoup plus lointaine aussi, parce que ce seraient des projets qui auraient peut-être moins de vocation à être rentables très rapidement, mais plutôt sur des sujets plus longs, avec des développements qui dureraient plus longtemps, qui seraient plus risqués. Donc ça me permettrait d'être dans une autre position de prise de risque dans mon développement professionnel et dans mes envies, parce que c'est quand même mes envies aussi in fine, et donc une liberté accrue qui, pour moi, est un des grands arguments de ce revenu de base, de fournir de la liberté aux individus.
J'entends de la liberté et aussi autorisée par, quand tu parles de prise de risque, par finalement une sécurité de base qui est posée et qui te permet...
Exactement, oui. C'est tout le paradoxe de la sécurité, c'est que c'est la sécurité libère, en particulier la sécurité économique, mais aussi la sécurité politique. Ça libère les individus pour qu'ils fassent exactement ce qu'ils veulent faire de leur vie. D'ailleurs, la poursuite de leur bonheur, si on veut reprendre des termes mieux pratiques. Et cette sécurité a finalement non pas une capacité d'entrave d'une individu, mais ça les libère pour pouvoir prendre des risques, pour pouvoir faire des décisions, des choix de vie qu'ils n'auraient pas pu faire s'ils avaient été obligés de se lever pour aller gagner un salaire, gagner une rémunération. D'un certain point de vue, on devient tous une sorte de rentier, mais c'est une rente qui est permise par le développement technologique de nos sociétés, par aussi notre développement, on va dire, moral et idéologique, avec des formes de justice et de liberté qui sont nécessaires pour que l'individu puisse être le plus heureux possible.
Oui, puisque j'entends aussi dans ce que tu nous dis, c'est que ça te permettrait de t'investir en termes de temps, d'énergie, de compétences, etc., dans des projets plus longs. Or, aujourd'hui, on est effectivement, alors je pense à la transition écologique, mais pas seulement, aussi dans les questions sociétales, de se dire, qu'est-ce qu'il faut? Est-ce qu'il faut, à très court terme, que ce soit rentable pour réussir juste à vivre, parce que voilà, c'est aussi dans le monde économique, le marché, etc. Notre premier objectif, c'est de pouvoir déjà survivre. Et là, on est dans du court-termiste très très fort. Et en même temps, là, tu parles du coup de projets longs, et ça me parle d'investissement, ça me parle de peut-être de choses plus éthiques aussi, puisque on implique les générations futures et les conséquences de nos actes présents. Donc il y a aussi pas seulement en termes individuels, quoi, quelque chose qui serait plus au service, sans doute.
Oui, c'est exactement ça. On peut faire des choix qui sont plus des choix simplement monétaires. On peut se dire, je m'arrête quelques années pour m'occuper de mes parents âgés, élever mes enfants, me former, entreprendre sur un projet écologique, social, culturel, qui me tient à cœur, mais qui n'est pas nécessairement quelque chose qui me ferait vivre. Et donc avoir ce filet de sécurité permanent est pour moi la meilleure façon de répondre à ces questions, c'est de dire peut-être que le travail tel qu'on le définit aujourd'hui n'est pas un outil qui est satisfaisant pour une partie ou une majorité de la population. peut-être que les sortir de cette contrainte économique permettrait d'avoir des sociétés plus apaisées, plus heureuses, plus joyeuses, plus solidaires, et donc d'avoir des meilleures conditions de vie tout simplement, et de pouvoir en tant que groupe, en tant que société humaine, en profiter beaucoup plus et sans avoir à se poser la question de attention, qu'est-ce qui se passe si jamais un licenciement, une crise, un problème. C'est une forme de solidarité globale commune du groupe que l'on se fournit en disant mettons en place un revenu minimum pour tous, un revenu de base qui permet à chacun peut-être de contribuer différemment à la société, mais surtout, je pense, d'être plus heureux. Et fondamentalement, des individus plus heureux, c'est un peu ma conviction, ce sont des individus qui sont meilleurs pour tout le monde. Il faut d'abord être bien chez soi pour ensuite pouvoir fournir du bonheur ou du bien-être aux autres. Et c'est très important de pouvoir avoir cette capacité de chercher ce qui nous plaît, ce qui nous rend heureux. Et ça peut changer d'ailleurs pendant le cours de la vie. on voit les évolutions entre ce qu'on veut faire à 20 ans, à 30 ans, à 40 ans, à 50 ans, à 60 ans. Ça peut évoluer et à la limite, tant mieux, parce que c'est aussi ça la vie, c'est du changement.
Oui, du coup, quand je lisais dans ta présentation que pour toi le revenu de base c'était la révolution sociale du 21e siècle, j'entends qu'au final tu réconcilies nos trois mots-clés de la République française, puisque tu réussis à réconcilier liberté, égalité et fraternité. Tu parles de solidarité. Donc il y a un peu des trois. Tu réconcilies la sécurité et la liberté, en même temps, le respect de l'individu, de son rythme, de ses aspirations, au rythme de son évolution, du sens qu'il met à ses activités, et en même temps un bien plus sociétal, quelque chose qui serait de la contribution plus ajustée au bien commun et même sur du long terme, quoi.
C'est encore plus vrai parce que le fondement de mes idées est finalement une translation des idées de la Révolution française, des révolutions, des Lumières, au niveau politique, qui sont transférées au niveau économique. Globalement, pour le dire rapidement, le passage à une démocratie libérale de tout l'Occident, au sens large maintenant, s'est fait parce qu'on a imaginé des systèmes où les individus devaient avoir des droits, les droits de l'homme, ils devaient être capables de voter et on devait avoir un équilibre des pouvoirs dans l'État pour éviter un abus de pouvoir de l'État. C'est ce qu'on a mis en place avec les différentes régulations, différentes chambres, députés, sénats, exécutifs, judiciaires, législatifs, pour éviter un abus de pouvoir et donc générer de la liberté pour les individus. Et c'est un peu une translation de ces idées fondamentales dans lesquelles on vit depuis 2-3 siècles maintenant, dans le monde économique, puisque quand vous regardez une entreprise, vous regardez une économie de marché, vous regardez une répartition de propriété, vous vous rendez compte que ça ne fonctionne pas du tout de la même façon que ce qu'on fait en politique. Et donc, il y a un vrai paradoxe théorique qui est de dire, mais pourquoi est-ce que ce qu'on applique en politique, on ne pourrait pas l'appliquer en économie? Et pourquoi est-ce que c'est finalement deux mondes qui ne devraient pas avoir des objectifs similaires? Et donc, ça a été aussi ça, un des fondements philosophiques théoriques de ce que j'ai voulu faire, d'essayer d'apporter une meilleure cohérence entre les deux. Et ce qui tombe bien, c'est qu'on arrive sur un revenu de base, on arrive sur une transformation de l'entreprise, on arrive sur une transformation de l'économie de marché, tout en gardant cette idée fondamentale que c'est la liberté qui va permettre le bonheur des individus. Et donc, il faut améliorer cette liberté des gens. Et elle arrive aussi par une meilleure sécurité économique. C'est comme si on disait, et c'est pour tout le monde admis, les droits de l'homme fournissent de la liberté à l'individu. C'est une sécurité, ces droits de l'homme, c'est des garanties. Et pourtant, ça aboutit à cette liberté. C'est pas liberticide, les droits de l'homme. C'est bien cette même chose qu'il faudrait qu'on aille la faire passer dans la... Que le revenu de base est un créateur de liberté, beaucoup plus qu'un outil de d'enfermement des individus dans la paresse ou dans d'autres objectifs. L'économie de marché n'est pas un outil qui doit avoir pour unique vocation de pousser les gens à aller travailler. Elle doit avoir pour vocation d'optimiser le système pour que tout le monde puisse en bénéficier. Et c'est un des vrais fondements qu'on a oublié dans l'idée de l'économie de marché historique, c'est que c'est une façon d'éviter des abus de pouvoir des plus riches sur les plus pauvres. C'est tout à fait ça.
Oui, en fait, ça fait du bien à entendre, parce que c'est vrai que pour l'instant, en t'écoutant, je me dis que la tendance, c'est plutôt que... que le monde économique est en train de déteindre sur le monde politique, quand on voit tous les 49-3, etc., la puissance des lobbies, etc., donc notre démocratie qui perd un peu ou beaucoup de son sens commun, de son bon sens, de son sens commun, du sens du commun, du bien commun. Voilà, c'est d'autant plus ambitieux et audacieux de poser les mots que tu poses. Et du coup, ça m'intéresse parce qu'il y a assez peu de versions qui partent du capitalisme. Et j'entends que là, du coup, il y aurait pour toi, dans ton livre, tu parles des destins du capitalisme, une évolution possible du capitalisme vers quelque chose qui resterait libéral, tout en respectant la sécurité, l'équivalence entre les individus. Tu parles des droits de l'homme comme phare, quoi, en termes de lumière. Tu parles des lumières. Est-ce que du coup, parce que là pour l'instant on est dans les attentes sociétales, individuelles et sociétales de cette version. Est-ce que vraiment tu penses qu'il peut y avoir une évolution du capitalisme actuel vers je vais mettre le mot utopie, pour moi ça a beaucoup de valeur, ce mot-là, c'est pas du tout désagréable, c'est comme quelque chose de voilà, justement cette lumière à l'horizon qui guiderait nos actions. T'as l'air d'y croire, donc est-ce que tu peux nous partager tes raisons d'y croire?
J'y crois, j'espère qu'on le verra de notre vivant, mais bon, c'est des temps longs, le temps des idées. Hein. On voit bien les durées de propagation des idées. Alors maintenant, heureusement, grâce au système numérique moderne, les mots et les idées se propagent beaucoup plus vite, mais quand même, malgré tout, il faut un temps d'acculturation, d'acclimatation, de propagation de l'idée. J'ai peut-être faire un petit feedback sur pourquoi j'en suis arrivé là. Au départ, moi, j'ai fait de l'investissement en capital dans les startups, et donc j'étais dans le mot, dans le terme, la définition de capitaliste. Et donc j'ai cherché de façon très pratique quelles étaient les raisons pour lesquelles le capitalisme était un système supérieur au communisme, au socialisme, etc. Et ce qui m'a amené à cette thèse de philosophie que j'ai faite sur le sujet du capitalisme, avec pour ambition de séparer clairement la définition du capitalisme de l'économie de marché. Et je ne vais pas refaire toute ma thèse maintenant parce qu'on en aurait très longtemps, mais grosso modo, il faut comprendre, il faut intégrer que l'économie de marché, ce n'est pas le capitalisme. L'économie de marché est née avant le capitalisme. Le capitalisme est un mot qui est arrivé à la fin du 19e siècle par deux chercheurs allemands, Sombar et Weber, qui ont créé ce mot capitalisme. Et avant, c'était une économie de marché. Alors oui, il y avait toujours des impacts de l'argent, et en particulier de la classe bourgeoise, mais ce n'était pas aussi structuré et aussi développé que ça a pu l'être depuis maintenant presque 150 ans. Et surtout, on a des comportements qui sont absolument différents entre le capitalisme et l'économie de marché. Le capitalisme, c'est plutôt un pouvoir dans l'entreprise du capital sur le système de production, sur l'entreprise. Et de l'autre côté, l'économie de marché, c'est un système macro qui doit organiser la variation des prix, la liberté des transferts des marchandises, des individus, du travail. Donc c'est deux systèmes qui sont imbriqués, mais qui sont très différents. Et donc on peut faire une économie de marché non capitaliste quand on arrive à avoir ces définitions qui sont beaucoup plus faciles à comprendre et beaucoup plus simples pour faire une analyse de ce qui s'est passé et de ce qui peut se passer dans le futur. Et donc moi, je suis un avocat d'une autre version qu'on pourrait appeler post-capitaliste de l'économie de marché, que j'ai appelée Equinomy pour économie équitable, écologique et équilibrée, parce que l'équilibre est important. D'ailleurs, c'est un des sujets majeurs de ce que j'ai fait comme recherche sur l'organisation des entreprises, l'équilibre des pouvoirs dans l'entreprise, comme on l'a fait au niveau de l'État, avec ce que je mentionnais, exécutif, législatif, judiciaire. En fait, c'est des contre-pouvoirs en interne et il faut les mettre de la même façon dans l'entreprise. Et donc, c'est comme ça qu'on fait évoluer ce capitalisme. Et donc, à la fin, dans mon sujet qui s'appelle l'économie, qui est pour moi le devenir possible heureux du capitalisme, c'est une transformation qui passe par ce revenu de base dont on parle aujourd'hui comme fondement de libération de l'individu par une libération de contraintes économiques minimales. Donc, c'est vraiment pour ça, c'est un socle de justice et de liberté. Et puis ensuite, c'est une transformation de l'organisation de l'entreprise et de son pouvoir en particulier dans l'entreprise et une réorganisation de ce qu'est une économie de marché, parce que dans la tête de beaucoup d'économistes, l'économie de marché se limite à la compétition. il faut optimiser la compétition. Il y a eu plein de lois nationales, internationales pour essayer d'augmenter la compétition. Et on perd de vue que l'économie de marché, au fondement, c'est de la compétition, certes, mais surtout beaucoup de coopération entre des individus, entre des groupes, entre des sociétés, entre des nations. Ce sont des gens qui travaillent ensemble avant de travailler l'un contre l'autre. Alors oui, il faut de la compétition pour des systèmes d'optimisation de prix, éviter des abus de monopole et autres, mais ce n'est pas nécessairement l'alpha et l'oméga de l'économie de marché. L'alpha et l'oméga de l'économie de marché, au départ, c'est la coopération entre les individus, la division du travail, la répartition des tâches, avec des gens qui savent faire plus ou moins bien des choses, qui sont d'ailleurs plus ou moins bien motivés à faire des différents jobs, et on tire parti de cette diversité des individus qui, quand on arrive à bien les organiser, font que ça crée encore plus de bien-être pour tout le monde et de performance, parce que moi, je ne suis pas du tout bon en design ou en communication. Et il y a des gens qui sont parfaitement éduqués et talentueux sur ça et qui d'ailleurs aiment le faire. Donc, quand on commence à faire cette liberté de marché, de mettre ensemble des individus avec des compétences différentes, c'est là qu'on a la meilleure performance. Donc, il y a toute une réhabilitation de ce système qui doit être faite à la fois au niveau théorique mais aussi en pratique et qui doit nous amener, j'espère, vers ce que j'appelle l'équinomie. Aujourd'hui, on voit bien, depuis une dizaine, vingtaine d'années, qu'on est plutôt sur une phase descendante. Il y a eu l'âge d'or du capitalisme, on va dire, qui était à la fin des années 90, quand il a gagné contre le communisme, même si c'est pas vraiment le capitalisme qui a gagné contre le communisme, hein, c'est plutôt l'économie de marché qui a gagné contre la planification de l'État. Si on voulait vraiment aller au fond de qui a gagné, c'est l'économie de marché qui a gagné contre la planification étatique. Et le communisme d'économie de marché, c'est un concept intéressant dans lequel je ne rentrerai pas, mais c'est un concept très, très différent d'une façon d'organiser les sociétés. Et le capitalisme a juste profité des performances et de l'intérêt et de ce que crée l'économie de marché. En fait, l'éco-capitalisme, c'est toujours protégé, c'est toujours caché derrière l'économie de marché, derrière les qualités de l'économie de marché pour exister. On pourrait considérer que le capitalisme, c'est un peu un parasite sur l'économie de marché qui en profite et qui justifie son existence grâce à l'économie de marché en dessous de lui. Donc, on pourrait s'en séparer du capitalisme. Évidemment, ça ne revient pas à dire qu'il faut arrêter toute gestion avec de l'argent, de la rémunération du capital. Ça continue, mais ça ne peut pas être le facteur dominant et quasiment exclusif de gestion d'une entreprise ou de gestion de groupe humain. Et donc, pour terminer, parce que je viens de faire un long laïus, aujourd'hui, on voit plutôt une dégradation avec des conflits politiques, avec des économies qui sont de plus en plus séparées entre des petits groupes qui captent beaucoup de valeur et puis des gens qui se sentent délaissés ou en tout cas laissés pour compte à côté. On fait des rapprochements depuis pas mal de temps sur, attention, ça rappelle les années 20, les années 30 du siècle dernier, et donc on sait par quoi ça s'est terminé. Donc je suis pas aussi pessimiste que ça, mais clairement, il y a un moment, il va falloir rééquilibrer le système et retrouver une façon de remettre tout le monde dans une même dynamique et de pouvoir repartager et retrouver de la solidarité. Autrement que par les vieux systèmes qui étaient super intéressants au milieu du 20e siècle, hein, l'État-providence était une révolution à ce moment-là, et essayer d'en remettre une autre en partant d'un revenu de base qui permettrait de rendre beaucoup plus lisible, efficace et beaucoup plus libérateur nos sociétés actuelles grâce à un revenu de base significatif, bien sûr. Et ça, c'est un des sujets majeurs de nos discussions quand on y va, c'est combien est-ce qu'on peut donner à chacun, comment est-ce qu'on le finance, pourquoi. Et là-dessus aussi, j'ai un peu travaillé avec ma thèse, et puis surtout ensuite sur comment est-ce qu'on justifie et explique ces montants pour que ça soit quelque chose qui soit compréhensible, j'espère, par tout le monde.
Pas d'hymne guerrier, pas de patrie, pas de président. Je n'ai pas d'autre armée que celle de ceux qui veulent combattre pour l'amour en dépit des lois de l'argent. Je n'ai pas d'homme à exploiter, pas de richesse à créer pour mon compte. Je Je n'ai pas de territoire à défendre contre ces pauvres gens qui viennent des quatre coins du monde. Et s'il nous fallait crever de faim ici tous ensemble, soyez les bienvenus. Plutôt mourir que de vivre dans l'abondance, couvert de vêtements quand tellement d'autres sont nus. Citoyen du monde, partisan d'un monde sans frontières. Oh yo, oh yo yo yo. Citoyen du monde, partisan d'un monde sans frontières. Il y a le bon étranger, celui que tu accueilles les bras grands ouverts. Et il y a le mauvais, celui que tu pourchasses dès qu'il a franchi ta frontière. Il y a le bon, celui qui te sera utile. Et il y a le truand, celui que tu ne veux surtout pas voir arriver dans ta ville. Si tu cherches la brute, va là où on parle dollar cash et pétrole brut. Mais ne cherche surtout pas le shérif. Je l'ai shooté quand il m'a dit qu'il ne défendait que les riches. Oh yo, oh yo yo yo. Citoyen du monde, partisan d'un monde sans frontières. Oh yo, oh yo yo yo. Citoyen du battre. Il y a tellement de petits sur cette terre, tellement facile à abattre. Vois toutes ces frontières, ce ne sont que de sombres cicatrices, plaies ouvertes d'anciennes conquêtes, vestiges de vains sacrifices. Tant de pauvres soldats envoyés au charbon sont morts pour elles. Combien chaud, la victoire était fêtée au champagne par leur colonel. Il n'y a qu'un seul rêve que je poursuive, une seule phrase qui en moi résonne. Par-delà les frontières, la terre doit appartenir à tous ou à personne.
Ce que j'aime bien en t'écoutant, alors bon, c'est l'idée du capitalisme parasite sur l'économie de marché, ça éclaircit effectivement, ça permet de distinguer un petit peu ces deux mouvements-là. Et en tout cas, j'entends une réappropriation de certaines organisations et de certains mots. Donc, par exemple, justement, rien que le mot économie, parce que étymologiquement, ça veut dire juste la gestion de la maison. Donc, c'est comment on s'organise au mieux avec les ressources pour bien vivre individuellement et collectivement. Le mot optimisation aussi me semble intéressant parce que moi, spontanément, quand je l'entends, j'entends optimisation fiscale. Et c'est les grands méchants, les très riches qui refusent de payer leurs taxes pour je sais pas, faire tourner nos hôpitaux, les écoles, etc. Alors que là, il y a vraiment cette idée qui me parle bien, de se dire voilà, on a des ressources, on a des savoir-faire, comment est-ce qu'on fait pour optimiser tout ça, pour faire en sorte de profiter, de faire fructifier le plus possible notre complémentarité. Donc déjà, ça signifie en présupposé non dit, mais que je vais clarifier quand même, le respect des compétences et des capacités de chacun. Donc ça, c'est aussi important, ne pas pousser quelqu'un qui ne peut pas faire, qui n'a pas envie de faire, qui ne sait pas faire, et le culpabiliser parce que voilà, il n'est pas à la place.
Que... quelque chose d'autre,
voilà, donc faire, comment collectivement on s'adapte aussi aux individus. Et donc cette optimisation qui permettrait dans un marché positif, c'est l'expression que t'emploies aussi, de faire en sorte que on puisse être plus efficace possible, c'est-à-dire avoir les meilleurs fruits avec un minimum de ressources, que ce soit, alors on peut, t'as parlé de d'écologie, donc en termes de ressources pures, matérielles de notre planète, etc., mais aussi les ressources en temps et en énergie. Si effectivement on peut faire tourner la société avec un minimum d'efforts, de travail dans le sens douloureux du tribalium, etc., de la torture, de dire ben voilà, pour pouvoir en profiter maximum de notre vie, de nos liens, de l'amour, t'as cité les enfants ou les parents, on pourrait rajouter tout le lien social, du bénévolat dans les associations, etc. Alors comment est-ce qu'on peut faire pour finalement optimiser toutes ces ressources humaines et planétaires pour arriver à quelque chose qui soit pas forcément du minimum, hein, mais en tout cas confortable pour tout le monde, avec du coup plus d'inégalité et du respect. En tout cas, là, en t'écoutant, ça me réconcilie avec l'économie de marché. Et j'ai vu aussi, peut-être juste avant d'entrer dans la forme concrète du revenu de base que tu envisages, peut-être quand même pour le mettre en relation, est-ce que il y a une sorte de trépied dans ta proposition? Donc il y a le revenu de base, ce fameux marché, cette économie de marché positive. Oui. Et un pouvoir partagé dans les entreprises, est-ce que tu peux nous en dire deux mots?
Bien sûr. Alors juste avant, je vais confirmer, pour moi le terme optimisation, c'est une vision très scientifique et technique du mot optimisation. C'est l'optimisation de ressources énergétiques, matérielles, humaines, capitales aussi, mais ça reste un sujet de faire mieux avec moins.
Voilà.
Et quand on regarde les 200 dernières années avec la révolution industrielle et la révolution technologique, on a fait beaucoup, beaucoup plus avec beaucoup. Maintenant, on va essayer de faire encore plus avec moins, et donc on va rentrer dans un système d'optimisation du sujet. Typiquement, une voiture qui pèse 2 tonnes pour déplacer quelqu'un qui pèse 80 kilos, est-ce que c'est le meilleur moyen de se déplacer en termes d'optimisation de ressources? C'est donc des questions qui font que, privilégier le vélo électrique, le bus, la marche, ça fait du sens, et en plus du sens santé de la personne, ça fait du sens en termes d'optimisation de ressources.
Donc, une autre façon de voir la décroissance, finalement.
Exactement. C'est une façon de dire on peut faire de la décroissance matérielle ou énergétique avec de la croissance de valeur, puisqu'on arrive à améliorer le rendu de ce qu'on utilise. Donc ça, c'est un des vrais sujets pour moi de l'écologie. Parce que si c'est l'écologie, c'est rendre pauvres les gens, ça va être très difficile à mettre en place. Si l'écologie, c'est de faire comprendre aux gens qu'il y a des meilleures façons de faire qui vont permettre d'éviter de gaspiller, de polluer, de détruire, ça peut vraiment très bien marcher. Et je crois que la technologie, dans ce sens-là, peut aider. Il y a plein de start-up, il y a plein de projets dans l'écologie qui peuvent vraiment améliorer les choses. Et donc, pour répondre plutôt... à ta question, en gros, c'est le fondement du capitalisme que de regarder le pouvoir dans l'entreprise. D'ailleurs, peut-être pour ça qu'il a été aussi mal analysé, aussi mal perçu, qu'il n'est pas si bien connu, c'est que finalement, comme on est au cœur de ce qu'est le capitalisme, je pense qu'il n'y a pas grand monde qui veut vraiment en parler, parce que c'est là que tout se passe. Quelle est l'orientation, le but d'une entreprise? Ce qu'on a justifié depuis longtemps, c'est que c'était les actionnaires qui décidaient, étant les propriétaires de l'entreprise et donc ayant mis le capital initial dans l'entreprise, avec pouvoir de décision, avec une assemblée générale, puis ensuite un président, un directeur général, un conseil d'administration, L'évolution légale de la, des entreprises a été quelque chose qui s'est fait sur quelques siècles. On a vu que ça s'est amélioré. Je passe très vite dessus, mais c'est très intéressant de montrer à quel point on a essayé de séparer l'argent de la personne pour que finalement on puisse créer des entreprises qui soient complètement autonomes. Mais en faisant ça, finalement, on a aussi complètement libéré l'entreprise de son lien historique avec l'actionnaire, qui maintenant n'est qu'une partie prenante parmi d'autres. Et finalement, une entreprise qui aurait pour objectif celui de l'actionnaire, donc maximisation de la rentabilité, celui de l'employé, maximisation de ses conditions de travail, de son salaire, de sa qualité de vie, ou celui du client, maximisation de la qualité et du prix de son produit, c'est finalement des choses qui sont totalement faisables, acceptables. On voit des coopératives de clients, on voit des coopératives d'employés, on voit des entreprises capitalistes avec des actionnaires. Ça cohabite dans notre économie de marché. Donc, finalement, pourquoi est-ce qu'un modèle a supplanté les autres? C'était une forme de pouvoir et de capacité d'imposer des choses historiquement, en termes de j'ai plus de capital, de capacité de production, et donc je peux être en meilleure concurrence avec d'autres. Mais ça a été aussi un choix social et politique de dire, une petite partie de la population va pouvoir utiliser l'entreprise comme un moyen économique de générer de la rentabilité. Ça s'est bien sûr propagé grâce au développement technologique. On voit bien que les grandes révolutions technologiques sont celles qui génèrent le plus de rentabilité parce que finalement, on révolutionne les méthodes de production en faisant des nouveaux produits ou des produits bien plus facilement. Là, c'est les révolutions du software très récemment, de l'intelligence artificielle en ce moment. On a eu des révolutions de biotechnologie, on a eu des révolutions de l'énergie. Les révolutions permanentes qui sont complètement maintenant intégrées parce qu'on met tellement de ressources par rapport au passé dans la recherche et développement que c'est des choses qui sont permanentes. On a une course à l'innovation qui nous permet d'avancer très vite. Mais ça ne justifie pas fondamentalement pourquoi une entreprise doit être maîtrisée, dirigée, organisée vers la rentabilité de l'actionnaire. Pourquoi l'actionnaire doit dominer cette fonction de l'entreprise. Et donc, on a des modèles. Par exemple, en Allemagne, un modèle de co-gestion, où c'est plutôt les employés et les actionnaires qui sont eux-mêmes représentés dans une administration pour équilibrer un peu l'organisation et les pouvoirs. Et la question, c'est pourquoi est-ce qu'on ne va pas au bout en disant les clients qui sont pour l'instant laissés entre je choisis des produits différents et donc je fais un peu jouer la compétition, mais pourquoi je n'irai pas directement avec un représentant dans l'entreprise pour défendre mes intérêts et aussi mes intérêts d'écologie et aussi mes intérêts sociaux pour que l'entreprise, in fine, soit une entreprise qui a un équilibre de pouvoir. Et donc le dirigeant, le président, le directeur général se retrouve avec différents objectifs qu'il doit ménager, qu'il doit essayer de faire cohabiter. On ne dit pas qu'une entreprise ne doit pas être rentable parce que sinon évidemment elle a un problème de comment fonctionner, mais ça ne peut ne pas être son objectif numéro un. On ne dit pas qu'elle doit juste privilégier ses employés ou qu'elle doit juste privilégier ses clients, mais elle doit prendre en compte tous les intérêts. Et dans ces intérêts, il y a les intérêts écologiques, il y a les intérêts de qualité du produit, de prix de produit, de salaire de ses employés, de rémunération de ses actionnaires. Mais une fois que tout ça est pris en compte et qu'aucun ne domine l'autre, on doit aboutir. Pour l'instant, ce système n'a jamais été mis en place. Ça reste un système qui est issu de ce que je fais comme recherche, mais que je n'ai pas mis en pratique. On doit aboutir à une entreprise beaucoup plus équilibrée, beaucoup plus saine, qui est capable d'aller communiquer à l'extérieur en disant voilà quels sont mes différents objectifs que j'essaye de faire cohabiter. Et de pouvoir les prioriser en fonction des besoins, en fonction de ce qui est le plus important, avec ce qu'on a déjà vu dans le monde politique, un équilibre des pouvoirs qui évite que des abus d'un côté ou de l'autre. Et donc je ne reviens pas vers une version collectiviste de l'économie, mais je ne pars pas vers une version capitaliste de l'économie de marché, puisque mes entreprises ont par construction différents intérêts en tête et pas simplement le profit à la fin de l'année ou à la fin du court terme. Donc on arrive avec ça à vraiment, selon moi, arrêter d'être dans des entreprises capitalistes et se retrouver dans des entreprises post-capitalistes, équinomistes, comme on veut. Et la question que vous pourriez poser, c'est comment est-ce qu'on fait ça pour passer de l'entreprise capitaliste à l'entreprise équinomiste? Eh bien, je vous dis, c'est une bonne question. C'est un petit peu de lobbying que j'ai essayé de faire, mais qui n'est pas très performant. Et c'est pour ça que je parle d'une révolution. Une révolution d'une société qui dise, OK, maintenant, mes entreprises ne sont plus simplement représentées par des conseils d'administration avec des représentants des actionnaires, mais avec d'autres sources de représentants, clients et employés. On voit que l'évolution du syndicat, historiquement, va vers ça, en particulier le syndicat germanique en ce moment, qui est plutôt un syndicat actif dans l'entreprise plutôt que réactif en opposition. Même si, bien sûr, ils vont faire des grèves quand ils ont besoin. Et il manque le syndicat de clients, l'association de consommateurs, que j'avais essayé de motiver pour devenir aussi plus proactif, mais qui fait que c'est vraiment un autre changement de rôle. C'est plus l'association de consommateurs qui dénonce, qui critique et qui donne des conseils, c'est celle qui vient dans l'entreprise. Et donc, c'est un changement de mentalité. J'espère que ça arrivera. Il y a, par exemple, ce qu'on appelle la B Corporation, la société qui s'appelle B Corp, qui vient des États-Unis, qui met des engagements autres que financiers, sociétaux, environnementaux dans l'entreprise, en leur donnant un autre statut, en leur donnant une autre vocation. Donc on voit que c'est un mouvement qui est en cours.
Sous forme de labels, ouais.
Et des labels, etc. Donc j'espère que ça arrivera.
En tout cas, on peut profiter du passage à l'antenne pour lancer un appel. Si jamais il y a une entreprise qui a envie de se tester et puis qu'on créerait un label Equinomie, pourquoi pas, ou contacter Frédéric Laloux pour qu'il renforce sa recherche sur les différentes organisations, qu'il rajoute un chapitre à son livre Reinventing Organizations, avec l'accent évidemment. Donc en tout cas, on lance un appel, on ne sait jamais, hein, tu pourrais être contacté. Oui, fin d'émission, voir le site.
Et c'est relativement facile à faire. Hein. La nomination d'un administrateur, c'est assez simple. On a déjà des administrateurs indépendants qui sont structurellement maintenant intégrés dans l'administration pour donner une vision un peu extérieure. Ce serait juste un administrateur, représentant de clients, représentant d'employés, qui aurait cette fonction et qui, à terme, on espère, serait en équilibre en termes de pouvoir et donc de nombre de sièges versus ses actionnaires. Et je pense même que ce serait, au-delà d'être bénéfique pour l'entreprise, la société, les individus, ce serait même bénéfique pour l'entreprise elle-même, parce qu'elle aurait une vision beaucoup plus équilibrée de ce qui se passe et beaucoup moins myopique de où dois-je aller, comment je choisis mes projets. Je pense que ce serait une bouffée d'oxygène. On a beaucoup parlé depuis une dizaine, vingtaine d'années du mal-être des salariés, du manque de sens, d'une problématique de pourquoi est-ce que je vais travailler dans ces organisations. C'est une façon extrêmement rapide et simple de remettre du sens, parce qu'on leur explique que finalement, ils ne travaillent pas simplement pour la rentabilité d'un actionnaire, ils travaillent pour un collectif, eux y compris, mais pas seulement. Mmh. Et je pense que c'est aussi un des besoins de notre humanité. Alors, en ce moment, on est un peu allé trop loin dans l'individualisme. Il faut revenir, on a un besoin de collectif, on a un besoin de sens ensemble qui est important, et l'économie n'y contribue pas tant que ça quand on est dans des grandes entreprises plutôt capitalistes.
Tout à fait. Je relis avec notre émission du mois dernier sur un revenu de base dans une entreprise libérée. Là, le périmètre était beaucoup plus petit. Mais alors, du coup, pour revenir à la place du revenu de base dans ton projet de société, est-ce que c'est un périmètre au périmètre de l'entreprise ou un périmètre sociétal ?
Alors, je suis sur un périmètre d'État, donc d'État. D'accord. De nation. J'aurais bien aimé faire quelque chose de beaucoup plus universel avec un revenu de base international, mais on arrive dans les complexités de parité de pouvoir d'achat, de politique de différents pays. Ça devient encore plus utopique que ce que je fais, que je trouvais déjà très utopique.
Oui.
Donc je suis resté à ce sujet de pays constitués, existants. Alors, modulo l'Union européenne, qui peut-être va pouvoir mettre un jour un revenu de base en place européen, mais qui posera déjà ses vrais problèmes. Donc là, je suis plutôt sur des pays par pays, la France, les États-Unis, l'Allemagne.
Oui, c'est important aussi que chaque peuple soit acteur de sa propre évolution. Donc après, si en France on instaure quelque chose, chacun pourra s'en inspirer et l'adapter à son mode de vie, son mode de pensée, etc. Donc déjà, en France, comment est-ce que tu verrais concrètement l'organisation, l'instauration d'un revenu de base ?
Oui. Alors j'ai une règle qui est celle de comment est-ce qu'on le calcule et comment est-ce qu'on l'installe ensuite. Je ne vais pas rentrer non plus dans beaucoup de détails, mais pour moi le montant objectif, ce serait en France à peu près 1 000 euros par mois par personne.
D'accord.
Je dis par adulte, en général c'est plus de 15 ans pour faire quelque chose de quand même assez large pour les adolescents un peu plus âgés. Bien sûr, il y aurait une allocation plus réduite pour les enfants, comme on l'a avec les allocations familiales. La limite, ça, c'est presque des sujets plus pointus, moins importants. Et pourquoi ce 1 000 euros ? Ça correspond à une sorte de 50% de la production du pays par an. Alors, évidemment, au milieu, il y a des taxes pour l'État, pour payer l'État ses fonctions normales, régaliennes, éducation, santé. Donc, le 50%, c'est un 50% qui viendrait sur un montant brut. Et en net, ça arriverait à environ 1 000 euros par an, par mois par adulte.
Ce qui correspond aussi à peu près au seuil de pauvreté aujourd'hui. Donc,
C'est ça, étrangement.
Ça tombe bien. Puis en plus, c'est un compte-rond, donc...
Voilà. Alors, il va falloir que je l'augmente, il y a quand même de l'inflation sur les quelques dernières années, donc peut-être qu'un jour, il sera conduit. Bah non, c'est plutôt 1100, 1200 euros par mois. Mais bon, grosso modo, ça donne l'ordre d'idée. Bien sûr, il faut que ça intègre des financements existants, parce que sinon, c'est pas du tout finançable. Hein. On peut pas juste créer de l'argent et puis dire que ça le donne. Il faut que ça reste dans une proportion qui existe déjà. Mais surtout, c'est le montant qui, pour moi, répond à un des problèmes philosophiques les plus fondamentaux de notre humanité, c'est comment on justifie la propriété. Ça, alors, je ne vais pas refaire un cours sur Marx, sur Proudhon, sur les débats du 19e siècle, sur la propriété entre les bourgeoisies, les ouvriers, etc.
Ça va être court, il nous reste 10 minutes pour présenter.
Voilà. C'est une vraie question fondamentale de pourquoi est-ce que la propriété est faite comme ça. Et un des gros problèmes de l'humanité, c'est qu'historiquement, la propriété s'est basée sur la violence. On a beau essayer de le cacher, de l'améliorer, de mettre de la peinture dessus. C'est toujours la violence qui a justifié les prises de pays, de populations, de ressources à droite ou à gauche. Alors après, on dit non, ça fait trop longtemps, donc c'est oublié. C'est comme si on se disait, on va attendre suffisamment longtemps et puis on va dire que c'est justifié. Ça marche pas bien. Mmh. Et ce revenu de 50% de la production est une façon de créer de la propriété. Et je vais le dire très rapidement et on pourra, dans une autre émission ou plus tard un jour, y aller beaucoup plus en détail. Ce 50% de redistribution, c'est l'équilibre qui permet de justifier la propriété, parce que c'est le contrat que ferait le moins riche des hommes, des femmes d'ailleurs, des êtres humains, avec la plus riche des personnes. Donc en gros, si on faisait une vision très contractualiste de la justice, en disant la justice, c'est le résultat d'un contrat entre tout le monde, et pour que ce ne soit pas trop compliqué, on va prendre le plus défavorisé et le meilleur et le plus favorisé, et on va les faire négocier sur ce qu'ils voudraient redistribuer pour savoir ce qui serait la solution la plus juste pour que on puisse accepter qu'une propriété soit celle qui existe. Et donc quand on fait cette discussion là théorique, bien sûr, on arrive à 50-50, c'est-à-dire que le plus favorisé serait OK pour donner son accord sur la propriété en récupérant 50% des fruits. Et le plus favorisé serait OK pour redistribuer tout ce qu'il a à hauteur de 50%, parce qu'il lui en reste suffisamment pour pouvoir à la fois avoir une motivation à produire, mais aussi avoir une justification réelle de sa propriété. Et donc c'est une façon indirecte de trouver une forme de justice très pratique, qui est de dire OK, comment est-ce que je justifie la propriété dans nos sociétés actuelles ? Et donc on arrive sur ce revenu de base. Donc ce revenu de base, il est pour moi un fondement de l'économie, parce que c'est ça qui justifie la propriété. Et sans propriété, il n'y a pas d'économie. Il faut le dire. Si on oublie la propriété, on rentre dans un état de guerre ou de violence, parce que tout est disponible pour tout le monde, et donc très rapidement, il y a des conflits d'appropriation. Et ensuite, c'est un sujet de libération de l'individu qui est majeur, et donc c'est pour moi les deux fondements philosophiques et les deux arguments majeurs que le revenu de base porte, justice et liberté.
Donc une propriété individuelle pour ne serait-ce qu'assurer un sentiment de sécurité. C'est vrai que le fait d'être propriétaire de sa maison, par exemple, ou de son logement général...
Et même de soi-même, parce que la propriété de soi-même, c'est une sorte de propriété un peu bizarre. C'est quelque chose qui n'était pas historiquement très compréhensible. Hein. L'esclavage était une façon d'enlever la propriété de soi-même. Et donc là, c'est une propriété de soi-même qu'on aurait aussi garantie... D'ailleurs, on voit des exemples d'esclavage, en particulier en Asie, qui restent réels. Donc, c'est encore un sujet à conquérir.
Une propriétaire de ma force de travail, de pouvoir la négocier, en sachant que j'engage pas ma vie, en fait, mes moyens de survie dans ce contrat-là.
C'est une meilleure position de négociation, voire aussi. De retrait de la négociation, si jamais ça ne me convient pas et que je voulais faire complètement autre chose pendant quelques années ou le reste de ma vie. C'est une façon de mélanger liberté et indépendance, si on veut aller dans les termes les plus précis, mais c'est surtout une façon de dire le reste de la société n'a pas d'impact sur vos choix individuels. Vous êtes le maître de vos choix individuels, vous avez la décision ultime, et ni l'économie ni le politique ne peuvent plus vous forcer à faire quelque chose que vous ne voulez pas faire. Et donc c'est là qu'il est très puissant, puisque finalement ça aussi oblige l'individu à se poser devant lui-même et puis à dire qu'est-ce que je veux vraiment faire de ma vie.
Oui, du coup,
pas simplement obéir au flow.
Du coup, j'entends deux choses. Quand tu parlais tout à l'heure de l'équilibre des pouvoirs et des parties prenantes dans une entreprise, du coup, les travailleurs auraient plus de marge pour négocier et du coup, leur engagement, alors dans une entreprise ou plus largement, hein, service public, dans un emploi contractualisé en général, du coup, que ce soit plus un choix, ça leur redonne le pouvoir et peut-être justement relayé par les syndicats qui pourraient représenter les conditions de travail et autres. Donc, il y a ce côté-là. Et il y a aussi une partie de comme on donne les moyens de la liberté, parce qu'officiellement, on est tous égaux. Hein, on est égaux en droit, mais pas forcément en moyens, très concrètement. Donc là, on pourrait, grâce à ce droit aux moyens de vivre, pouvoir aussi reconquérir non seulement notre liberté, mais aussi notre responsabilité. C'est-à-dire que puisque j'ai les moyens de vivre, j'ai les moyens de faire des choix, je redeviens responsable de mes choix et je dois les assumer et je dois en répondre. C'est-à-dire que si je m'engage à faire quelque chose, c'est pas parce que j'y suis contraint par le chantage à la fin, c'est parce que j'ai choisi de faire ceci et cela pour telle et telle raison. Avec, un, la conscience que si je le fais, c'est pour nourrir des besoins, pour prendre soin de moi, de mes proches, etc. Et en même temps, la conscience de l'impact que ça a sur le collectif. Donc là, on parle d'une entreprise, par exemple, mais ça peut être de la société, par exemple la société française en entier, de voir qu'on a un impact à travers nos choix, qu'aujourd'hui, finalement, on voit moins. Parce qu'on nous impose tellement de cadres on subit de plus en plus le choix de notre emploi, les conditions de travail, le taux de rémunération, comme tu l'as dit, qui est décorrélé de nos compétences, de notre impact, etc. Et donc là, ça redonnerait individuellement et collectivement finalement de la citoyenneté, quoi.
C'est ça. On refait des adultes responsables, citoyens, qui font des choix parce qu'ils veulent les faire, parce qu'ils y croient, parce qu'ils pensent que c'est la bonne façon pour eux d'exister dans la société et puis dans le monde. Et derrière, ils ont une autonomie qui est supérieure. Donc, plus en termes de réaction ou d'aigreur sur le fait de dire « on ne m'a pas donné les moyens, je n'ai pas les capacités, je ne peux pas faire ». Maintenant, c'est on vous supporte, on est derrière vous, on vous fournit un revenu de base pour que vous puissiez faire les choix qui vous tiennent à cœur. Et j'espère, comme je l'ai dit, que c'est comme ça qu'on fait des sociétés plus heureuses avec des individus plus heureux, quels que soient les âges de la vie où on est et quels que soient les choix que l'on fait. Et bien sûr, en fonction des pays, comme je disais, 50% du PIB, de la production, ça varie en fonction du PIB du pays, donc ça s'adapte plutôt bien à cette géographie du pays, en espérant qu'il y aura effet boule de neige. Il y a 250 ans, les deux premiers pays qui ont fait leur révolution libérale, c'était les États-Unis et la France. On aimerait bien que ce soit la France et les États-Unis qui fassent la mise en place du revenu de base au XXIe siècle pour donner cet élan au monde entier en disant « mettez ce système en place pour pouvoir renouveler votre état-providence, redonner de la liberté, un élan à vos sociétés et les amener vers un meilleur système économique qui est plus simplement capitaliste, qui est une meilleure économie de marché et qui est bien sûr beaucoup plus écologique et beaucoup plus équitable.
Écoute, si la petite pique à l'orgueil cocorico peut stimuler quelques ambitions, tout est bon. Tous les leviers sont bons dans ce sens-là. En tout cas, merci beaucoup Sébastien pour tout le travail que tu as mené, pour ce partage concis et efficace. Pour ceux qui veulent lire ta thèse, évidemment, je les laisse se rapprocher de toi. Et en tout cas, je redonne le site sur lequel on pourra trouver plus d'informations, lire tes écrits et puis notamment trouver les destins du capitalisme. www.equinomy.com. C'est ça ?
C'est ça. Exactement.
Un grand merci Sébastien. Ça. Et puis, je sais pas, tu veux rajouter quelque chose ?
Non, je suis tout à fait ravi que tu aies proposé cet appel à des entreprises pour tester la solution. Je trouve que c'est une très bonne idée. Essayons de voir si un jour on arrive à le mettre en pratique. Et merci beaucoup pour cette interview. Et j'espère que beaucoup de gens auront été, en tout cas, intrigués par cette idée et j'espère convaincus pour certains.
En tout cas, si ça intéresse des entreprises, n'oublie pas de nous tenir au courant et ça fera au moins un article sur le site revenudebase.info parce qu'on a envie de suivre ça aussi.
Avec plaisir, ce serait super.
Merci beaucoup Sébastien. Prends soin de toi et puis bon vent à l'Equinomie.
Merci, à bientôt.
Au revoir.
Au revoir.
Je voudrais sans la nommer vous parler d'elle comme d'une bien-aimée, d'une infidèle. Une fille bien vivante qui se réveille à des lendemains qui chantent sous le soleil. Je voudrais sans la nommer vous parler d'elle comme d'une bien-aimée, d'une infidèle. Une fille bien vivante qui se réveille à des lendemains qui chantent sous le soleil. C'est elle que l'on matraque, que l'on poursuit, que l'on traque. C'est elle qui se soulève, qui souffre et se met en grève. C'est elle qu'on emprisonne, qu'on trahit, qu'on abandonne, qui nous donne envie de vivre, qui donne envie de la suivre jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Je voudrais sans la nommer rendre hommage. Jolie fleur du mois de mai, aux fruits sauvages. Une plante bien plantée sur ses deux jambes et qui traîne en liberté où bon lui semble. C'est elle que l'on matraque, que l'on poursuit, que l'on traque. C'est elle qui se soulève, qui souffre et se met en grève. C'est elle qu'on emprisonne, qu'on trahit.
Bonjour, je m'appelle Zélie. Vous écoutez les programmes de Radio Campus sur le 106,6 ou sur le www.campuslille.com et sur les DAB+. Bonne écoute.
Au cœur du centre-ville, je suis libraire, je suis fleuriste, café ou restaurant. Mes clients viennent me voir, je les connais souvent. Je les conseille, je les comprends, je suis essentiel, vous pouvez me croire, je suis essentiel,
Vous écoutez Radio Campus, une radio libre, associative, sans publicité, sur le 106,6 ou campuslille.com. Bonne écoute.
J'ai rien à dire d'intéressant, rien qui fasse marrer les vivants. J'observe le blanc des yeux des gens et je les regarde en souriant. C'est la grosse tension, pas moyen d'engager la conversation. C'est la grosse tension, pas moyen d'engager la conversation. Ah, ah, tu tournes le moulin à parole et lance la farandole. Des idées qui décollent, poussées par les vapeurs d'alcool.
Je crois que j'ai abusé la boisson. Dommage, moi qui avais l'intention de captiver l'audition, d'envoyer les gonzesses, c'est mort. Alors, no comment, please. No comment, please.
C'est la grosse tension, pas moyen d'engager la conversation. C'est la grosse tension, pas moyen d'engager la conversation. Pas de bonne, pas de mauvaise, pas de bonne, de mauvaise école, non. Pas de bonne, pas de mauvaise, pas de bonne, de mauvaise école.
C'est la grosse.
Pas de bonne, pas de
tension.
Pas de bonne, pas de bonne. Pas moyen d'engager la conversation. C'est la grosse. Pas de bonne, pas de
tension.
Pas de bonne, pas de bonne. Pas moyen d'engager la conversation. C'est la grosse. Pas de bonne, de mauvaise école.
Tension.
Oh, ça charge, ça rigole. Hey, dans le silence, la pression monte.
Les flamands osent la couleur. J'ai pris la pause, demandez-leur quelles sont les choses qui me font peur.
Et si j'ose encore repeindre en rose mon intérieur, chercher la cause, les erreurs. Et si j'ose encore.
Les flamands osent la couleur. J'ai pris une dose de bonne humeur. Quelles sont les choses, les saveurs.
Et si j'ose encore compter les jours, compter les repeindre en rose ma douleur. Et si j'ose encore.
Et tout s'oppose à l'intérieur. Autant de choses qui sont à faire. Aux manévroses, petite sœur. Et si j'ose encore plaquer en or ma douleur, ce qui se dit à l'extérieur n'a pas d'esprit, n'a pas de cœur. Et si j'ose encore. Les flammes osent la couleur.
J'ai pris la pause, demandez-leur
quelles sont les choses, les saveurs.
Et si j'ose encore repeindre en rose mon intérieur, plaqué en or ma douleur. Et si j'ose encore. Les flamants osent la couleur. Et si j'ose encore. Les flamants osent la couleur.
encore.
Radio Campus,